Bien, alors j'ai le plaisir d'introduire cette quatrième journée d'études sur l'enfance au quotidien, à laquelle nous accueillons donc comme invitée extérieure Christina Figueredo, qui arrive de Paris et qui arrive surtout donc de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire EDA. Alors, pour introduire quand même la journée et expliquer un petit peu ce que c'est que cette idée de modèle d'enfance, je vais quand même faire une introduction un petit peu longue, hein, j'ai gardé le terme d'introduction, mais que j'ai intitulé donc entre école et famille, la confrontation des modèles d'enfance. Et puis, je souhaitais aussi, avant même rentrer dans la problématique de la journée, rappeler, maintenant qu'on est presque dans une tradition, hein, rappeler comment ces journées de l'enfance au quotidien se sont construites et rappeler les thèmes de ces journées, si vous le voulez bien. Donc, ces journées qu'on a la chance justement d'avoir à l'écoute sur la forge numérique grâce à Ronald Minot qui a mis en place cette forge numérique. C'est donc, hein, si vous allez sur le site de la MRSH, vous avez un petit icône jaune, forge numérique, et vous avez non seulement évidemment ces journées de l'enfance, mais bien d'autres communications, bien d'autres journées d'études et colloques enregistrés qui sont une vraie mine d'or pour la recherche. Donc, des journées qui ont en fait, la première journée de l'enfance, hein, a été créée par Dominique Ottavi, qui était là à ce moment-là et qui a eu cette idée de construire ces journées de l'enfance qui constituent depuis, je dirais, un temps fort, hein, pour notre équipe Enfance, Jeunesse et Culture, cette équipe du CERS. La première année, donc en 2009, Dominique Ottavi avait invité Marie-Claude Blais et Jean-Claude Quintel en invité extérieur. L'année suivante, en 2010, nous avions eu comme thème d'une journée que nous avions conçue avec moi-même et Dominique Ottavi, donc les enfants et leur territoire au quotidien. C'était le thème de cette deuxième journée en 2010, au sein de laquelle j'étais intervenue, co-intervenue avec Nathalie Dupont et Laurence Filizetti. Hein, c'était aussi l'idée de montrer cette co-intervention et cette codisciplinarité à travers cette co-intervention sur les lieux à l'école et au collège, hein, cette notion de territoire à l'école et au collège. Et puis, on avait cette fois-ci, en 2010, en intervenante extérieure, un invité, Sandrine Despaux, qui arrivait de Rennes et qui nous avait parlé du Pédibus, et Aurélie Morin, qui arrivait du CIRCEFT de Paris 8, qui nous avait parlé des adolescents et de leur usage informel des espaces, ou de leur usage des espaces informels, on pourrait dire aussi. Voilà. Et puis, l'année dernière, en 2011, on avait une journée que nous avions intitulée « De la conformité sociale aux violences ordinaires », à laquelle nous avions invité Charles-Édouard de Surmain, qui est anthropologue et qui avait parlé des enfants des rues en Bolivie. Et nous avions aussi sur cette journée des co-interventions entre chercheurs de l'équipe EJC, co-interventions entre des chercheurs et des étudiants sur leurs données d'enquête à ces étudiants, hein, pour montrer aussi comment une des choses qui tient à cœur à cette équipe, c'est d'impliquer des étudiants aussi bien comme auditeurs, hein, de ces journées, mais aussi de l'autre côté de la table, hein, comme pouvant présenter leurs données avec une réflexion conjointe avec les chercheurs de l'équipe. Voilà, hein, tout cela pour, je dirais, montrer un petit peu dans quelle dynamique on est dans cette équipe, hein, dans quelle volonté d'être dans une élaboration collective, de croiser les disciplines. Élaboration collective, je dirais, qui va se faire aussi aujourd'hui, dans le sens où on aura bien sûr les interventions, mais une place aussi laissée importante aux échanges, hein, pour cette réflexion collective. Donc, au niveau du programme, hein, comme chacun l'a vu, ce matin, on laisse plus de place à notre invitée, à Christina Figueredo. donc après mon introduction. Et cet après-midi, il y a juste une inversion entre Valentina Crispi et Leandro de la Jonquière. Et puis on aura la chance aussi d'entendre Alain Vergnaud qui voudra bien, peut-être, espérons, qui a prévu en tout cas, de bien vouloir clore cette journée par une approche synthétique. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'idée de cette journée, c'est à l'échelle de la planète, de voir quels sont les modèles forts qui se dessinent, à l'aide desquels on peut analyser les situations rencontrées par les enfants, ainsi que les représentations que les sociétés se sont construites de l'enfant. Alors, ces modèles, j'ai apporté quelques ouvrages, justement, dont je vais parler, pour expliquer déjà comment cette idée de la journée, un modèle d'enfance, m'a été inspirée par cet ouvrage qui est sorti récemment, voilà. Tant qu'à faire, je vous passe tout de suite tous les ouvrages, ça m'évitera de me relever. Je vais vous parler aussi un petit peu de celui-ci qui parle de figures d'enfance. Donc en quoi modèle et figure, en quoi on a là deux termes intéressants. J'évoquerai aussi, parce qu'on a des auteurs qui se retrouvent d'un auteur, d'un livre à l'autre, cet ouvrage dirigé par Bonnet et Pourchaise, du soin au rite dans l'enfance. Et puis j'ai amené celui-là parce que je me suis dit que s'il y avait des étudiants qui ne le connaissaient pas, on retrouve aussi Marie-France Morel qui est dans un autre ouvrage, sur enfance d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Voilà un petit peu. Je n'ai pas amené une bibliographie, j'ai amené carrément les livres. Comme ça, vous pouvez les voir un petit peu plus. Donc, justement, l'idée de cette journée donc, m'est venue par cet ouvrage sur les modèles de l'enfance. Dans cet ouvrage, ils identifient comme modèle l'enfant du lignage, je vais en reparler tout de suite, l'enfant de la chrétienté, l'enfant de la nation et l'enfant comme personne, dont on reparlera cet après-midi. Donc, comment est-ce que ces modèles nous aident à comprendre en particulier la relation délicate entre école et famille, puisqu'on a dans la problématique de cette journée aussi l'idée de se focaliser sur les effets de la scolarisation, de l'école, sur la construction des modèles d'enfance et leur transformation. Donc, par conséquent, j'imagine qu'on parlera aussi de cette relation école-famille. On découvrira ensemble. En tout cas, l'idée de cette journée, c'est d'avoir d'abord un éclairage anthropologique pour justement réfléchir sur la diversité des modèles d'enfance, en partant donc du cas des Touaregs ce matin, mais aussi cet après-midi, donc en ayant une approche comparative, grâce notamment à l'intervention de Valentina Crispi, qui, elle, prendra des exemples, construira son analyse à travers le cas de la Suisse et de l'Italie. Voilà. Et puis, on aura aussi l'approche de la psychanalyse dans cette journée, l'analyse de la psychanalyse pour, avec Leandro de la Jonquière, comprendre comment notre modèle républicain en évolution va aussi construire cette position des enfants dans le discours social. Donc, un thème de journée qui m'a été inspiré par cet ouvrage, qui nous a été inspiré avec Nathalie Dupont, qui a penser avec moi cette journée que nous avons imaginée et conçue ensemble, à travers cet ouvrage « Modèle d'enfance », publié par trois chercheurs, donc Doris Bonnet, Charles-Édouard de Surmain, qui sont anthropologues, et Catherine Rollet, qui est historienne et démographe. Donc on a déjà cette double approche, anthropologie et histoire. Des chercheurs qui pratiquent depuis de nombreuses années cette réflexion autour de l'enfance, qui valorise notamment cette journée d'études à travers un séminaire qu'ils dirigent à l'EHESS et qui s'intitule « Regard croisé sur la petite enfance ». Alors, dans cet ouvrage aussi « Modèle d'enfance », on a une préface d'André Turmel, qui est sociologue de l'enfance, qui lui aussi a pour ambition de croiser les approches disciplinaires et qui donc est sociologue de l'enfance, qui notamment travaille au sein de l'AISLF dans le groupe sociologie de l'enfance. et qui vient de diriger, donc avec Louise Hamelin-Brabant, l'ouvrage que je vous fais circuler, qui s'appelle « Les figures de l'enfance, un regard sociologique ». Donc ici, dans les figures de l'enfance, on est plutôt sur les sociétés, j'allais dire, industrielles, alors que dans le premier ouvrage, sur les modèles de modèles d'enfance, on est plutôt sur les sociétés traditionnelles, j'allais dire aussi bien les sociétés traditionnelles d'aujourd'hui, lointaines, telles que, mais aussi par cette approche historique, hein, donc par exemple la France traditionnelle. Alors, modèle ou figure, je voulais qu'on s'arrête un moment sur ces termes. En quoi est-ce qu'il nous aide à penser l'enfance, finalement ? André Turmel, justement, dans son avant-propos, propose une définition, enfin, en tout cas, développe cette idée de modèle. Il l'inscrit ensuite dans une perspective socio-historique. Il dit que le rôle du modèle, je le cite, c'est de substituer une forme simple au processus historique complexe afin d'expliquer la manière dont une société agit à l'égard des enfants. Hein, donc, voilà, on a la manière dont une société agit à l'égard des enfants, des processus historiques complexes, et finalement, l'idée du modèle, c'est de substituer une forme simple à ces processus historiques complexes, pour mieux comprendre comment une société agit à l'égard des enfants. Donc, on voit ici comment ce modèle, selon André Turmel, est bien une construction de scientifique pour penser l'enfance, hein, même si je reviendrai sur le fait qu'évidemment ça n'est pas seulement une construction de scientifique. Alors, le modèle qui l'intéresse, lui, c'est le modèle de la psychologie du développement, sur lequel je reviendrai un petit peu, mais voilà, qui nous intéresse parce qu'il est celui, hein, qui se trouve toujours aujourd'hui au centre de notre manière de penser l'enfance dans nos sociétés. Juste pour compléter, par rapport à cette idée de modèle, on a donc l'idée de figure. L'idée de figure qui est donc définie par différents auteurs dans le second ouvrage, et en particulier par Isabelle Danik dans son intervention, dans sa contribution, qui dit qu'elle utilise ce terme de figure au sens de définition sociale ou de représentation sociale, selon le terme durkheimien, c'est-à-dire définition sociale ou représentation sociale, c'est-à-dire une élaboration mentale construite et partagée collectivement, permettant de penser, je la cite là, hein, et permettant de penser et d'interpréter le monde, de se l'approprier et d'y agir. Donc là, elle reprend, je dirais, cette approche durkheimienne à sa manière, hein, comme donc une élaboration mentale, cette représentation sociale ou cette définition sociale, qu'elle définit comme élaboration mentale, construite et partagée collectivement, permettant de penser et d'interpréter le monde, de se l'approprier et d'y agir. On a tous besoin, hein, nous ici, dans cette salle, hein, scientifiques ou membres d'une société, on a tous besoin de figures ou de modèles pour penser, hein, pour penser l'enfance, finalement. En tout cas, on se construit, on en a besoin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on peut constater qu'on se construit ces modèles ou ces figures pour penser l'enfance, entre autres l'enfance. Hein. Et si je fais allusion à ce que Régine Sirota a écrit dans sa contribution à cet ouvrage « Figure de l'enfance », elle parle de figures en disant que les figures sont à l'intersection de l'imaginaire, de la représentation et enfin de la modélisation. Donc on est en même temps au croisement de ces différentes dimensions et elle désigne la figure comme étant un mode de réflexivité sur l'enfance. Quelque chose qui se situe à l'intersection de l'imaginaire, de la représentation, et de la modélisation. Et elle parle aussi de sphères différentes, c'est-à-dire que les modèles tels que l'enfant de la psychologie du développement, ces modèles ou ces figures circulent d'une sphère à l'autre. Sphère scientifique, mais aussi sphère médiatique, hein, comment ces termes, par exemple, cette manière de penser l'enfant comme personne, hein, sont repris par les médias, sphère politique, et alors comment justement ce modèle va engendrer des politiques sociales, hein, et j'allais dire, enfin, sphère du sens commun, enfin, sphère... Dans un jeu, hein, dans cette circulation d'une sphère à l'autre, dans un jeu de traduction, de réverbération et d'aller-retour d'une sphère à l'autre. Voilà, donc comment est-ce que le modèle tel qu'il est conçu par les scientifiques, par exemple, évidemment se construit à partir d'une réalité sociale observée par les anthropologues, par les sociologues, et comment ensuite ces modèles étant diffusés par le biais de ces scientifiques, dans le monde médiatique, dans le monde politique, voilà, comment cette construction se co-construit justement entre ces intervenants. Par exemple, comment le modèle de l'enfant comme personne va produire des modes de rationalité des comportements privés, hein, va intervenir sur ces comportements privés, sur notre manière d'être avec les enfants, comment il va légitimer les politiques publiques, et comment il va faire évoluer notre sensibilité à l'égard de l'enfance. Alors ce terme de sensibilité, j'avais aussi envie de le rapprocher d'un autre terme plus ancien, je ne sais pas si tous ces ponts sont très justifiés, on pourra y revenir, entre modèle, figure et sentiment de l'enfance, hein, qui est donc un terme que Philippe Ariès a proposé dans son ouvrage « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », édité la première fois en 1960, où il propose ce terme de sentiment de l'enfance. Il me semble qu'on peut faire des rapprochements avec cette idée de modèle ou de figure, dans le sens où il s'agit bien d'une manière de construire un modèle d'enfance. Il définit, lui, le modèle d'enfance comme, je dirais, une conscience de la particularité enfantine, particularité donc qui distingue cet enfant de l'adulte, même jeune, lui distingue plutôt finalement deux modèles, hein, celui du mignotage et celui des pédagogues et moralistes du XVIIe, hein, donc mignotage du côté, enfin, peut-être une partie d'entre vous connaît tout cela, hein, mignotage du côté perceptible chez en particulier les mères et les nourrices, hein, qui s'amusent, dit-il, de la grâce, des petites manières et des bons mots des enfants, un petit peu comme des animaux de compagnie, sans trop se soucier de leur éducation, au contraire d'un second sentiment de l'enfance, que l'on trouve du côté des pédagogues et moralistes du XVIIe, qui, eux, se soucient de former l'enfant dans son corps et dans son esprit. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point. Dans son corps, hein, par ce souci d'hygiène, et dans son esprit, bien justement, par la mise en place des méthodes scolaires et l'enfermement des enfants dans l'école. Voilà. Alors, on sait que depuis, cette idée de sentiment de l'enfance comme étant apparue à ce moment-là a été repensée, remise en cause par les historiens du Moyen-Âge, par exemple, hein, qui ont montré qu'il existait déjà un sentiment de l'enfance dans les époques antérieures, un sentiment différent. Finalement, on voit bien que ce qui intéresse aujourd'hui les historiens, c'est pas tellement de savoir à quel moment est né notre sentiment moderne de l'enfance. Enfin, c'est aussi cela, mais c'est surtout de connaître la nature des sentiments de l'enfance qui ont existé aux différentes périodes de l'histoire et d'identifier ces modèles. Voilà, et je dirais, de connaître aussi la nature des sentiments de l'enfance que les anthropologues rencontrent aussi d'une société à l'autre. Alors, je voulais juste aussi quand même insister sur ce que dit André Turmel à propos du modèle de la psychologie du développement, hein, qui est un modèle donc qu'il évoque dans sa préface, mais qu'il développe aussi dans d'autres articles ou ouvrages. Parce que c'est celui dans lequel on baigne aujourd'hui, hein, et qui donc nous fait penser l'enfance toujours aujourd'hui ici. qui émerge au moment de la Première Guerre mondiale, à la suite, justement, enfin, selon André Turmel, à la suite du modèle médico-hygiéniste, et qui envahit le discours public des sociétés occidentales, je reprends toujours ses propos, et qui contraint, dit-il, les adultes à penser leurs enfants en termes de maturation et de séquence linéaire d'étapes, et à agir en conséquence de ces séquences linéaires d'étapes, de cette maturation. Donc tout cela va avoir des incidences, on le comprend, hein, sur les modèles pédagogiques, la manière, le modèle éducatif, etc. Voilà, alors selon l'auteur, il est important de pouvoir sortir de ce modèle théorique, hein, de la psychologie du développement qui a pensé l'enfant, pour le confronter à d'autres approches. Et on voit bien dans son propos comment finalement la notion de modèle est aussi quelque chose qui se construit ici, en lien avec une discipline, hein, la psychologie du développement, et comment justement cette sphère scientifique influe la sphère sociale, hein, et permet finalement sa prédominance dans cette sphère sociale. Voilà. Et ce modèle, justement, impulsé par les psychologues, est rediscuté en introduction dans l'ouvrage sur les modèles d'enfance de Doris Bonnet, Catherine Rollet et Charles-Édouard de Surmain, qui, eux, en tant qu'anthropologues et historiens, insistent aussi sur le fait que ce modèle de psychologie de développement a focaliser l'attention du public sur la relation mère-enfant, sur la relation dyadique mère-enfant. Et les historiens et anthropologues ont essayé de montrer des contre-exemples de cette relation dyadique mère-enfant, c'est ce que disent en tout cas les auteurs de cette introduction, contre-exemples au prima de cette relation, hein. Et ils insistent sur l'inscription de l'enfant, des enfants, en tant qu'acteurs sociaux, dans un tissu d'échanges relationnels construit selon un contexte social, politique et culturel. Donc, par rapport à ce projecteur, j'allais dire, mis sur la relation mère-enfant, eux élargissent le projecteur pour expliquer comment les choses se construisent dans ce tissu d'échanges relationnels. Voilà. Ensuite, la diversité des contextes, justement, hein, puisque cela se construit dans un contexte social, politique et culturel, c'est cette diversité des contextes qui existe à l'échelle de la planète qui permettent la mise en valeur de quelques modèles forts que j'ai cités tout à l'heure, hein, donc l'enfant du lignage, de la chrétienté, de la nation et l'enfant comme personne ou l'enfant de la psychanalyse. 13 auteurs, donc, finalement, qui participent à cet ouvrage, Modèle d'enfance, qui donnent aux lecteurs des illustrations de ces modèles, on pourrait dire, enfin, plus que des illustrations, hein, donc des explications, des développements, et qui montrent comment, d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre, ces modèles se succèdent, mais aussi, surtout, se croisent, se transforment et coexistent. Et c'est ça qui me semble important à retenir aussi pour notre journée. C'est cette idée de transformation et de coexistence qui est développée par ces auteurs. Alors juste un exemple qu'on retrouvera peut-être à travers les interventions, notamment à travers la tienne peut-être, Christina, je vais le découvrir ensuite. Ce modèle de l'enfant du lignage, le modèle de l'enfant du lignage qui domine dans les sociétés rurales traditionnelles, qu'on a trouvé aussi donc en France et en Occident jusqu'au 19e, qu'on trouve encore aujourd'hui dans de nombreuses régions des pays en développement. En quoi il consiste déjà en quelques mots? L'enfant du lignage, c'est l'enfant maillon au fil des générations. C'est l'enfant don de la terre-mère. C'est l'enfant propriété du groupe lignager, du groupe du lignage, mais aussi c'est l'enfant comme être inachevé, être entre deux mondes, Alors, entre quel monde ? Eh bien, entre le monde des vivants et le monde des morts, hein. Entre le monde des humains et le monde des animaux, entre ce monde des vivants et des humains et le monde des esprits, ou le monde... voilà. Donc, entre deux mondes. Et on en trouve un exemple de cet enfant du lignage dans cet ouvrage, notamment présenté par la doctorante Palmira Lariva González, qui mène ses recherches dans une communauté quechuane des Andes du sud du Pérou, et qui, par une approche en même temps ethnographique et historique, décrit un enfant justement qui n'est pas encore humanisé, qui est, dit-elle, démon ou esprit maléfique, que justement des rites de passage vont finalement inscrire dans le monde social. Alors, dans les sociétés du Sud, ce modèle de l'enfant du lignage, on le retrouve et on le rencontre confronté à celui, par exemple, de l'enfant de la nation, hein, et c'est donc cette coprésence qui nous intéresse. Donc, confronté à l'enfant de la nation, c'est-à-dire, l'enfant de la nation, c'est l'enfant pris en charge par les institutions étatiques, hein, pour son éducation, pour sa protection, pour son accès aux soins, et voilà, essentiellement pour ces dimensions-là, même si ce que montrent aussi les auteurs, c'est que ces pays des sociétés du Sud ont rarement les moyens de mettre en place un système opérationnel et général, évidemment, qui permette la mise en place de ce modèle de l'enfant de la nation. Il montre aussi, à travers les différentes interventions et les différentes contributions à cet ouvrage, on voit aussi comment, dans ces sociétés du Sud, en même temps que cet enfant du lignage traditionnel, émerge le modèle de l'enfant comme personne, témoignant, selon le modèle occidental, d'un processus d'individuation de l'enfant. Enfant comme personne qui témoigne de ce processus d'individuation de l'enfant. Et à la lecture de cet ouvrage, on est en droit de se demander, on peut se demander si toutes les sociétés ne tendent pas vers ce modèle de l'enfant comme personne. En tout cas, on constate que ce modèle influence la plupart des sociétés. Mais, à la limite, ce sur quoi insistent surtout les auteurs, c'est comment ce modèle local, sa culture, je dirais, avec celui ou avec ceux qui arrivent de l'extérieur, en particulier ce qui étonne les directeurs de cet ouvrage en conclusion, c'est l'extrême vivacité des modèles traditionnels qui vise à inscrire l'individu dans sa parenté et dans sa communauté. Et même dans nos sociétés individualistes, même dans notre société, on voit ce modèle traditionnel qui consiste à inscrire l'individu dans sa parenté et dans sa communauté, qui reste fort. Les auteurs de cette conclusion donnent par exemple le fait qu'en l'année 2000, en France, 51% des enfants sont baptisés, ce qui montre que des rites d'intégration, tels que ce baptême, s'imposent encore comme une manière d'intégrer l'enfant à sa communauté et à sa parenté. Voilà, je m'arrêterai là juste pour terminer deux mots. Voilà, on a bien cette intention de voir comment les choses se conjuguent, comment ces modèles se conjuguent, et... finalement, l'ensemble des contributions de cet ouvrage permettent, à travers les différents cas particuliers analysés, de constituer en quelque sorte des guides, j'allais dire, des guides d'analyse, pour étudier ensuite toute autre situation que l'on pourrait regarder et à laquelle on pourrait s'intéresser. Voilà, donc... Ce que je souhaite, c'est que cette journée participe aussi à nous donner des guides d'analyse des situations, aussi bien celles dont nous allons parler que peut-être celles que nous avons chacun en tête qui nous interrogent.